Bonsoir à tous et bienvenue pour les éclairages numéro 3, un épisode assez spécial on va le dire. C'est le premier live des éclaireurs, des éclairages, c'est magnifique. Et donc avec moi ce soir, trois invités. Donc j'ai avec moi le vieux briscard du podcast Laurent Doucet. J'allais dire Laurent Doucet, c'est dingue quand même.
Quoi ?
Eh ouais, donc Randall Flag est avec nous.
Bonjour.
J'ai avec moi ZQSD.
Salut tout le monde.
Et Barberousse qui, j'ai réussi à le sortir de Queen Novi, à le faire venir jusqu'à moi. C'est...
Je me vengerai.
Mais oui, bien sûr. Je peux te donner des ordres, c'est bien là. Alors, donc, pour ce soir, chacun va nous... Un truc assez cool, hein. Chacun va nous dire 2-3 trucs qui l'ont marqué ces derniers jours. Ça peut être des jeux vidéo, surtout beaucoup de jeux vidéo ce soir. Des films, des séries, enfin bref, peu importe. On va commencer tout de suite, hein, de toute façon. On va commencer avec Barberousse qui va nous parler d'un jeu assez violent, on va dire.
Ah, plutôt violent, ouais. Alors moi, je vais vous parler de Hotline Miami, un petit jeu indépendant qui est sorti il y a même pas, quoi, allez, 3 semaines, le 23 octobre 2012 de cette année. Alors c'est un petit jeu en téléchargement sur Steam ou Good Old Games. Pour PC, apparemment il y a une version Mac qui va arriver. Alors à quoi ça ressemble ce petit truc? Ça ressemble à du GTA de la première époque.
Je te mets la musique dessus, en fond, la magnifique musique.
Ah, le générique d'intro. Donc ça ressemble à du GTA première époque, donc GTA 1 ou GTA 2 à l'époque où Rockstar était encore DMA Design. Donc c'est vu de dessus, pixelisé, on rentre dans les bâtiments, ça ressemble vraiment à un plan, on voit juste les murs, les portes, les personnages à l'intérieur, etc.
Si ça plaît pas, je comprends que ça puisse pas plaire ce genre de graphisme quand même, ça faut vraiment rentrer dedans quoi.
C'est vraiment rétro, c'est vraiment spécial.
En tout cas, avoir les screenshots, ça fait pas forcément envie.
Ça peut pas donner vraiment envie, c'est pour ça que ce jeu on peut pas vraiment le conseiller à tout le monde, mais il faut quand même faire un petit peu l'effort. Alors on est dans une ambiance des années fin 80, début 90, côte ouest des États-Unis, donc avec ce que vous entendez en ce moment, un petit côté surf, tranquille, un peu psychédélique par moment.
Ouais.
Et ce jeu est en fait un jeu ultra violent, et quand on dit ultra violent, c'est vrai. Il y a du sang partout, c'est un vrai massacre, vu que dans ce jeu, il va falloir rentrer dans une maison et buter tout le monde. Et le pire avec dans ce jeu, c'est qu'on a à peu près aucune justification à tout ça.
C'est ça qui m'avait super choqué, quoi. C'est que t'arrives dans le jeu, tu sais pas qui t'es, le personnage, tu sais pas qui c'est le personnage principal, et on te dit d'aller là et tu tues tout le monde, quoi.
Tu réponds à un message au téléphone, et puis tu vas aller dans une pièce, et puis là tu vas buter tout le monde, et tu vas ressortir. Ça fait beaucoup penser à Drive, justement.
Ouais, c'est ce que j'étais en train de me dire, sur l'ambiance.
Et la bande originale fait vraiment, vraiment penser à Drive. Et si vous connaissez Drive, dites-vous juste une chose, le jeu, en fait, ça fait penser à la scène de l'ascenseur de Drive.
Ouais, voilà, exactement. Mais d'ailleurs, je sais pas si... Alors, je te mets Hydrogène, une autre musique du jeu.
Hydrogène, une autre piste.
Qui est assez psyché. Et je sais pas si t'as vu le trailer du
jeu. Oui, bah c'est justement ça.
C'est du Drive, quoi. Enfin, voilà.
C'est un hommage à Drive, l'acteur est pareil, le style est pareil.
Il a un scorpion dans le dos.
C'est de
l'hommage. Alors, on saura jamais si c'est du tueur.
Est-ce que c'est aussi pesant que Drive? Parce qu'il y a une ambiance assez bizarre dans Drive.
C'est super pesant, je trouve. Ouais, ouais.
Il y a aussi ce genre d'ambiance, mais l'ambiance est à la fois dans le jeu, à travers tous les trucs horribles que tu peux faire, et au final tu sais pas vraiment pourquoi, sauf si tu vas à la fin du jeu, et aussi une ambiance grâce à la musique.
D'accord.
Musique qui est juste à tomber par terre,
c'est
vraiment formidable. Les pistes sont excellentes.
Ça a été une de mes principales raisons d'acheter le jeu, quoi. On m'a dit, écoute la bande-annonce, l'OST, et... ouais, c'est ça qui m'a fait acheter le jeu. Mais j'ai mis quelques images sur le live pour ceux qui sont en live. Vous allez voir que le jeu est super violent.
Et vous pouvez même trouver carrément le trailer, ou taper Hotline Miami trailer, et vous verrez directement la grosse inspiration de Drive. En fait, le jeu se déroule en plusieurs phases. Une phase, on va dire, un peu plus tranquille, où le gars qu'on joue, on sait même pas qui c'est, se réveille chez lui, répond au téléphone, et on lui dit que, par exemple, il y a un problème de rat au 103 rue machin truc, et ce serait bien de s'en occuper et discrètement. Donc on prend la voiture, une DeLorean en plus, un petit peu classe. Mmh. On s'arrête devant la porte de l'immeuble et on rentre. Et à partir du moment où on rentre, il faut absolument buter tout le monde très très vite. Pour la simple et bonne raison qu'une attaque à main nue est relativement silencieuse, mais il faudra achever l'ennemi par terre. C'est-à-dire qu'une fois qu'il est au sol, on se met sur lui et on le bourrine à coups de poing, avec gerbe de sang partout, et si on utilise une arme, on rameute tout le monde. Donc il va falloir sans cesse faire des choix entre l'arme blanche, les poings, l'arme, rentrer dans les pièces, balancer un gros coup de pied dans une porte pour sonner le mec qui est derrière, balancer un truc, un couteau sur la tête du garde à un flingue qui est à l'autre côté de la pièce, le finir au poing et ressortir. Et c'est vraiment très rapide, c'est très violent, il y a énormément de sang, c'est tout en adrénaline.
C'est ça qui m'avait... Oui, vas-y.
Si vous voulez encore une autre image, ça va être les films de braquage des années 90, ouais. Début 2000.
Exactement.
Tout se passe en quelques secondes. Généralement, les mecs qui braquent ont un masque des présidents des États-Unis et tout va très rapidement. Et généralement, ça part rapidement. Les masques ont leur importance ensuite et ça part rapidement en couille. C'est vraiment la même ambiance. Et les masques auront une importance par la suite, vu que juste avant de rentrer, faire sa salœuvre, on va dire, on peut choisir un masque. Donc au début, le premier masque n'ont pas de capacité spéciale, entre guillemets. Fur et à mesure, on va débloquer des masques qui vont donner des capacités spéciales. Ça peut être courir plus vite, ça peut être voir plus loin. Ça peut être commencer avec un couteau, voilà. Et plein de masques différents.
Les armes à feu qui font pas de bruit, être plus résistant, mourir en deux coups plutôt qu'en un. Et ça rajoute de la stratégie, enfin une bonne petite dose de.
Il y a une petite dose de stratégie. Vu comment on prend le jeu, il faut aller très vite, il faut essayer d'anticiper un maximum. Et on peut mourir très vite aussi. Et ce qui est très bien, ce qui n'est pas frustrant, c'est que si vous êtes mort par terre, une touche appuyée et vous revenez directement au
départ. Le restart est très rapide.
À la Super
Meat Boy, c'est quand même frustrant quand t'arrives au dernier. Ouais, exactement.
Exactement, la Super Meat Boy. C'est du die and retry directement comme ça.
Mais il n'y a pas de temps mort.
Il n'y a pas du tout de temps mort. Tu ne peux pas avoir de temps mort.
C'est le seul truc qu'on
ne
peut pas tuer, quoi.
Donc tout doit se faire dans la vitesse, tout doit se faire dans l'immédiat, quasiment, on va dire, au réflexe.
C'est de la chorégraphie presque.
C'est quasiment de la chorégraphie. Ça, je vais y venir après. Et une fois que tu as terminé ton niveau, que tu as battu tout le monde, tu as un petit bling, un petit message, ouhou, voilà, tu as réussi. Et là, il y a une deuxième musique qui se lance. Et ça, c'est Crush. Voilà. Après, et dès que vous avez tué tout le monde, un petit bling, un petit bip quasiment très jeu vidéo de bravo, vous avez gagné. Et il y a cette musique-là qui commence. Donc après tout le rush d'adrénaline, toute la vitesse et toute la musique quasiment entêtante qu'il y avait eu avant, un peu disco, un peu techno, il y a juste cette musique-là qui passe, très calme, c'est limite une musique de fond quasiment des acouphènes, et c'est là que la deuxième phase du jeu commence, c'est que tu commences à te rendre compte de ce que tu viens de faire.
Oui.
Tu es arrivé au deuxième ou troisième niveau, au troisième étage, et tu dois redescendre jusqu'à la voiture. Et en fait, là, tu te rends compte de tous les mecs que tu as butés, les as butés. Et tu repasses les mains dans le sang, du sang partout, c'est vraiment un carnage. Et là, tu comprenais ce que tu venais de faire. Mais au final, ça...
Ouais, c'est...
En état de choc,
ouais, mais franchement, c'est un petit peu comme on était... comme si on était... pendant qu'on tue tout le monde sous sédatif, on se rend pas compte de ce qu'on fait. Et c'est vraiment une fois qu'on a fini, on dit « Ah ouais, quand même, j'ai vraiment fait tout ça, quoi. »
Bah, exactement, c'est exactement ça. Et après, tu rentres dans ta voiture et puis youpi, voilà, tu as terminé le niveau, tu vas aller voir ce qui se passe. Et il va y avoir certaines phases comme ça, juste purement de dialogue, puisque après un niveau, bah, on va aller, je sais pas, aller se prendre une pizza.
Oui.
Puis bizarre, c'est que le mec de la pizzeria nous connaît.
C'est tout le même. Ouais. Oui, voilà,
c'est tout le même gars. Ouais, il nous connaît, c'est sympa. Ah oui, non, mais on te connaît bien, alors tiens, vas-y, prends la pizza, c'est sur la maison. Et tu rentres chez toi.
Et on comprend rien de ce qui se passe dans le jeu.
Et on comprend rien du tout. On comprend rien.
Et
on comprendra seulement à la fin.
Ah si, à la fin.
Si, à la fin on comprend. Et en fait, on se rend compte rapidement qu'il y a un intérêt à faire un deuxième run, à recommencer le jeu. Le premier run est très long, vu qu'en fait on hésite, on rentre dans les pièces, on sait pas ce qu'il faut faire, on cherche, on meurt beaucoup de fois. Et le deuxième run se fait en un clin d'œil, parce qu'on a tout de suite les bons réflexes dans le jeu. Et ça devient. Le premier run est comme si on était en pleine répétition. Et le deuxième, c'est vraiment le braquage comme il doit être fait. Très rapide et très speed. Et là, on sait ce qu'on fait. Et surtout, c'est l'occasion de récupérer les petites pièces qui manquent, vu que dans chaque niveau, il va y avoir une sorte de petit carré à récupérer, qui vous permettre de résoudre un puzzle qui vous donnera la solution de quelque chose à la suite. et qui vous dira pourquoi, enfin entre guillemets, pourquoi on fait tout ça. Mais le jeu, au final, n'est jamais très très répétitif, malgré le côté, voilà, faut foncer partout. Il y a toujours une petite nouveauté qui arrive tous les deux, trois niveaux. Rapidement, il y a des chiens dans la maison. Les chiens, on ne peut pas les avoir à main nue, par exemple, et dès qu'ils vous voient dans un couloir, ils font sur vous directement. Donc faut les éviter, faut les gérer, ils sont très très rapides.
On a aussi les
Et il y a des éléments qui
SWAT.
arrivent. Les SWAT qui vont arriver à un moment, il y aura des changements de gameplay un peu plus tard, ça je vais pas spoiler non plus. Le jeu se finit assez rapidement, je vais dire 8 heures à tout casser.
Ouais. Oh, c'est déjà pas
Ça
mal
va
alors,
assez
franchement.
vite, c'est déjà pas mal pour un petit jeu j'ai pas donné le prix d'ailleurs.
8 € je l'ai, ouais, c'est ça?
8
Moi je l'ai
euros
à
ou
8 euros.
9,99 sur Steam ou Good Old Games.
Ah, il est sur Google Game, bonne nouvelle.
Il est sur Good Old Games aussi, en téléchargement pur. Et faut aller se connecter à Steam pour avoir
Ah, faut quand même se connecter à Steam.
les ouf et les achievements.
Ah, d'accord.
Mais
il y a
Bah
une option Steam dedans. Ce jeu va finir peut-être par sortir sur PS Vita d'ailleurs. Vu qu'il y a des rumeurs, le développeur serait en contact avec Sony pour le sortir sur PS Vita, et ça marcherait très très bien à mon avis. Autre petit détail, le jeu se joue surtout au clavier et à la souris.
voilà. Ouais, ça c'est bien.
Ouais.
Très
Et
vrai.
depuis un ou deux patchs, il a eu la très très bonne idée de permettre de pouvoir changer les touches, parce qu'au début il
Oui.
fallait jouer en QWERTY, ce qui est pas génial.
On pouvait pas jouer en
Donc le
ZQSD.
développeur continue. Et non, c'est... Oh!
Attention. Pour info,
Donc le
il a
développeur met...
8,49 € sur Steam. Pour le
D'accord.
prix
Voilà.
exact.
Ça va.
Alors c'est un excellent jeu, une excellente bande originale. Malheureusement, on ne peut pas le conseiller à tout le monde, le style est vraiment spécial. Il faut pouvoir accrocher à ça, dépasser le côté tuerie gratuite pour aller un peu plus loin, dépasser le côté pixel qui
Ouais,
peut être un peu
ça peut
gênant au
rebuter.
départ. Il y a plein plein de petites choses à fouiller dedans, il y a plein de petits détails, le fait que ce soit une DeLorean dans la chambre du gars au départ, il y a
Ouais,
une NES par exemple.
il y a plein de petits détails super bien comme ça.
Plein de petits détails à fouiller, il y a plein plein d'armes différentes, plein de finishes différents quand le mec se console. On peut lui balancer une poêle dans la tronche, il y a énormément de choses à faire. Et il y a vraiment cette ambiance, c'est vraiment unique dans le jeu
Mais
qui est
comme dans
vraiment
beaucoup de jeux
excellente.
indés, on voit que le développeur se fait plaisir, quoi.
Dans beaucoup de jeux indés, c'est du die and retry, ouais, on se fait
Moi, ce
plaisir,
qui
il y a
m'avait
vraiment une super ambiance.
marqué dans le jeu, c'est que on commence, enfin, je commence, je vois. Bon, bah, mon avis, c'est du bourrinage. On prend un flingue et puis allons-y, quoi. Et puis finalement, tu meurs deux, trois fois au bout de 5 secondes de jeu et tu dis, ah, je vais quand même faire attention à ce que je fais là, quoi. Et finalement, on se rend compte que c'est beaucoup plus subtil que ça y paraît, en fait. Et finalement, et aussi, il y a une partie de scoring. On s'en rend pas compte, mais finalement, il y a une partie de scoring parce que quand si tu gagnes. Tu atteins un certain nombre de points à la fin d'un niveau, tu vas débloquer des nouvelles armes. Enfin, voilà. Après, tu peux débloquer des masques aussi. Donc, c'est ça qui est bien. Il y
C'est
a...
là ce qui donne un petit doute en fait, c'est qu'on se demande si cette couche jeu vidéo ne se rajoute pas par-dessus une couche purement terre à terre, purement physique. Comme si le mec était devenu à moitié fou
Ouais.
et que tous les petits sons jeux vidéo, que tous les petits bonus comme ça, c'était juste lui qui était en train de péter un plomb juste
Ouais.
après avoir tué tout le monde. Il y a toujours une sorte d'ambiguïté là-dessus et il joue aussi un petit peu là-dessus. C'est très intelligent.
Ouais, exactement. Mais voilà, c'est vraiment un jeu à... Ouais, je le conseille vraiment, surtout la bande son. Mon Dieu, la bande son, qu'est-ce qu'elle est bien. Voilà. Autre chose à rajouter?
Ah, rien du tout, c'est fini.
Rien du tout. Eh ben, merci. Moi, on va passer à la suite. Moi, je vais vous parler de Focal Alternative. Je sais pas si vous en avez entendu parler.
Ah,
Ah oui, c'est Focal
Aperture
Alternative.
Corp.
Oui, c'est le projet de notre ami Perture Corp, donc c'est Philippe du podcast Nos Cultures, donc c'est le podcast belge. Et donc, c'est un passionné de photographie et il tient un magazine qui s'appelle Focal Alternative, mais c'est un magazine en ligne, et donc un magazine gratuit d'ailleurs, et qui est vraiment super bien foutu, quoi. Il y a un boulot monstrueux qui est fait là-dessus chaque mois. Et un de ses rêves, c'était de pouvoir sortir le magazine, mais en version papier. Et donc, il a lancé son projet sur Ulule, donc c'est une plateforme de crowdfunding. Et il a récolté les dons, donc moi j'ai participé. Et donc j'ai reçu cette semaine la version papier du magazine. Et donc c'est un super magazine. Et ce que j'aime beaucoup, c'est que on s'arrête pas sur le matériel. Donc parce que ça peut être un petit peu dur pour ceux qui ne connaissent rien d'arriver devant une page avec 4-5 appareils photo et voir que des descriptions de techniques d'appareils photo. Alors ça m'intéresse pas du tout. Ce qui est bien, c'est que là, ça s'intéresse à la démarche artistique. Pourquoi la personne est allée là-bas, a pris ces photos-là. Et ça, c'est super intéressant. Il y a par exemple le premier, j'ai pas fini dans le magazine, mais le premier sujet, c'est un gros sujet sur les prisons. Et donc, on s'aperçoit que vraiment, il y a des gens qui vivent vraiment dans la prison. On s'intéresse aux gens et pas à ce que montrent les images, ce que montrent les
C'est
images
un vrai
à la
reportage
télé.
photo, quoi.
Voilà. Ouais, c'est vraiment du reportage et on se rend compte qu'il y a des gens qui vivent, qui ont des sentiments, tout ça. Et c'est même les gardes, enfin les surveillants. Ça, c'était super intéressant. Et donc, si vous voulez acheter ou soutenir, déjà soutenir Aperture Corp et acheter le magazine, vous pouvez l'acheter sur
En prison.
Oui. Alors, c'est sur focal-alternative.be. Voilà, c'était un petit truc que je vais lui dire. C'était un petit coup de
Et il
cœur.
n'y a que de
J'espère
la
qu'il sera
photo ou
content.
il y a du
Et
texte qui accompagne?
il y
Les photos,
a
c'est...
beaucoup de
Voilà.
textes parce que c'est en fait des
Voilà,
interviews
d'accord.
des photographes. Donc il y a beaucoup de textes des marques et des photos, mais les photos tiennent une bonne place. Ça peut être des
Ah,
doubles
ok.
pages de photos, soit en noir et blanc, soit en couleur. Voilà. Et donc on va passer à la suite et donc on va parler d'Assassin's Creed.
Donc c'est à moi.
Oui, c'est à toi.
Alors,
Ne stresse pas, c'est à toi.
donc je vais parler surtout d'Assassin's Creed 3, mais avant je vais faire un petit résumé des anciens épisodes
Ah
pour
oui,
ceux
parce que
qui n'ont
moi j'y
pas
connais pas
joué.
grand-chose.
Alors, pas de spoil, hein.
Non, non, pas de spoil, t'inquiète pas. Donc en fait déjà le principe général d'Assassin's Creed, c'est qu'on est un mec, un barman, et en fait grâce à une machine qui s'appelle l'Animus, on va pouvoir revivre le passé de nos ancêtres. Donc au début, on ne comprend pas vraiment pourquoi ni comment ça se passe, mais ça se passe. Donc on arrive en pleine guerre assassin contre Templier. Donc au début, donc, sur les premiers épisodes, on joue donc les assassins. Je dirais rien sur les Templiers. Donc au premier épisode, on joue à Altaïr. À Assassin's Creed 2, on a joué Ezio Auditore de Firenze. Et après, ils ont fait donc deux épisodes charnières, on va dire. Donc ont été Revelation et Brotherhood puis Revelation. Et là, donc, le 3 qui est sorti, donc, dernièrement. Donc, avant d'en parler, je vais faire un petit peu les avantages et inconvénients de la série. Donc, pour ça, j'ai demandé à 2-3 personnes dans mon entourage qui jouaient pour avoir un peu leurs avis, essayer
Mon
d'égayer un
sondage.
peu. Donc, on m'a beaucoup parlé de l'évolution au fil des épisodes. Donc, par exemple, on m'a fait la réflexion que dans le premier, on pouvait pas nager alors qu'après, on pouvait. Bon, j'avoue que je n'ai
Oui,
pas été
dans le
vérifié.
premier.
J'ai pas été vérifié.
On peut pas
Oui,
nager.
Alter et hydrophobe dans le premier,
Ah
oui,
oui.
c'est assez rigolo.
C'est le
Voilà,
syndrome
mais.
GTA, quoi.
Mais ça montre qu'Ubisoft a pas mal appris des erreurs et a fait un monde de plus en plus grand, mais a aussi fait attention aux ces petits détails. Et au fur et à mesure des épisodes, on voit que c'est beaucoup plus immersif, beaucoup plus
Beaucoup
prenant,
plus varié.
et que ouais, chaque détail est plus important en fait. Bon, après, on peut parler de tout ce qui est fluidité et tout ça, mais bon, on va pas s'attarder là-dessus. Il y a aussi un mode multijoueur, donc j'ai joué qu'à celui de Brotherhood, donc je pourrais pas trop en parler, mais c'est bien innovant quand même. Ça change des
Ouais, il
FPS.
paraît qu'il était vraiment original celui-là, le principe
Ouais.
du chat et de la souris.
Voilà, ça change un peu des FPS comme d'habitude. Donc là, en fait, on est une cible et on est poursuivi. Et donc, il faut arriver à échapper à notre poursuivant et à tuer notre cible.
Ouais,
Donc, ça.
on a à la fois cible et poursuivant à chaque fois, c'est ça?
Voilà. Et on peut avoir plusieurs cibles et plusieurs poursuivants après. Ce qui devient un peu plus compliqué. Donc, voilà, on a une.
Chacun joue un assassin dans une ville, et puis chacun une cible, et chacun doit
Voilà,
suivre la cible.
exactement.
Évidemment, il faut pas se faire retrouver, il faut pas trop se faire remarquer par son chasseur tout en chassant sa cible.
Oui, parce que j'en ai pas parlé, mais donc c'est aussi quand même un jeu presque d'infiltration à certains moments. Faut savoir être discret comme faut savoir se battre contre 10 méchants d'un coup. Donc c'est un peu un jeu qui mélange pas mal de genres, donc de l'exploration également. Et ça, c'est ça qui a beaucoup fait le succès de la série, je pense. C'est ce mélange de beaucoup de styles. Et après, dans les inconvénients, parce qu'il y en a quand même, donc il y a notamment énormément de petits bugs. Donc beaucoup de bugs de collision. On le voit régulièrement sur les habits, tout ça d'Ezio ou d'Altaïr. Les épisodes peu utiles, c'est ce qu'on m'a dit ce matin. Donc Brotherhood et Revelation qui n'apportent pas grand-chose à part le multijoueur. Mais
Je serais pas complètement d'accord, mais
moi,
bon.
c'est mon avis un peu sur Brotherhood surtout. Revelation encore, j'ai été assez scotché à la fin. Parce qu'il y a quelque chose dans Assassin's Creed, c'est qu'il y a un petit côté mystique. J'expliquerai pas plus, mais en jouant à la fin de chaque épisode, ça se barre en couille. Je pense que c'est
Oui,
clairement
c'est
le
un peu
mot.
ça.
Oui,
Ah oui,
j'avais vu des
clairement là.
images et ça m'a donné envie de jouer.
Voilà.
Rien que des images là.
On est devant sa manette, on fait, mais qu'est-ce qui se passe?
Et puis faut surtout rappeler qu'il y a quand même plusieurs niveaux d'histoire dans le jeu, donc
Oui.
c'est ça qui rend le
On
truc
a.
super riche.
On est dans le monde réel en 2012 avec. Je sais plus comment il s'appelle, ça y est.
Desmond.
Desmond. Voilà.
Desmond
Desmond
Miles.
Miles. Et on rentre en fait dans ses mémoires au fur et à mesure. Et après, ils ont même été jusqu'à. C'était en Revelation, je crois qu'on jouait Ezio. Et dans Ezio, on jouait Altaïr. un moment.
Ah, ça, je l'ai
pas fait. Oui.
C'était très perturbant, donc voilà. Et donc l'univers a été assez développé, ça a extrêmement bien marché commercialement. Je pense à tous les épisodes sortis sur toutes les consoles, j'ai la liste devant moi que je citerai pas, ça prendrait trop de temps. Mais entre 2007 et 2012, ils en ont sorti des jeux. Il y a des livres, des BD, des courts-métrages, et ça a été jusqu'à Soul Calibur 5 où on peut jouer Ezio.
Ouais, ils ont essayé de faire le cross-média avec ça. Et...
Ouais, bon, Ubisoft a bien
vendu. Ils ont raté des trucs, hein, mais ils en ont réussi pas mal. Il y a des BD...
Il y a le film en préparation. Ouais. Apparemment, le film est en préparation, j'ai entendu. Donc...
Bah, ils sont associés avec un studio pour faire justement Assassin's Creed Lineage, qui était justement les 2-3 petits courts-métrages qui présentaient l'histoire du père d'Ezio juste avant Assassin's Creed 2.
Ouais.
Et c'était vraiment pas mal.
Oui, c'était un bon début.
C'était une bonne tasse, c'était plutôt bien foutu. Et le film, c'est pas étonnant. Et c'était quand même un bon début. Je te laisse. 2007, c'était quand même une époque entre guillemets charnière, vu que c'est une époque où on a eu de grosses licences qui sont arrivées, et surtout des nouvelles licences.
Et puis les nouvelles consoles,
donc,
2007.
Assassin's Creed et les nouvelles consoles. Et Assassin's Creed était justement un de ces piliers des nouvelles consoles, avec ces grands espaces,
ce monde ouvert. Ouais.
Et puis le gros trip de malade, c'était de monter en haut d'un pilier, et puis d'utiliser la vision d'aigle pour regarder tout autour de soi et de faire le saut, c'était juste une tuerie. Pour
le fait que tout ce que tu voyais, tu pouvais grimper dessus, si j'ose dire.
Sauf l'eau.
C'était assez révolutionnaire, sauf l'eau.
Et ça j'en reparlerai justement. On peut pas forcément grimper sur tout. Et ça, c'est un problème... Mais ça, j'en reparle après. Donc, moi, je passais donc à Assassin's Creed 3, donc, qui est sorti le 31 octobre. Ouais, c'est ça, 2012. Donc, il y a quelques jours, 15 jours.
Pas de spoil,
non,
je l'attends
pas. J'ai prévu. Donc, j'ai pas passé beaucoup de temps sur le jeu. Donc, je vais pas non plus avoir un avis développé. J'ai dû passer 6h30, je crois. Alors, donc, on joue un nouveau personnage, donc Connor, qui est un indien. Enfin, d'origine indienne et anglaise, je crois. Et ça se joue pendant la guerre d'indépendance américaine. Donc on change totalement d'époque.
On connaît le nom de sa mère ?
Je sais pas, je crois que je le connais pas encore, en tout cas.
Je me demandais si elle s'appelait Sarah.
Ouais, j'en étais sûr.
Donc,
j'en étais sûr, ouais.
Donc ouais, c'est... j'ai pas tout suivi encore dans l'histoire, parce que je suis encore au début, j'ai pas envie de spoiler de toute façon. Mais il y a beaucoup de nouveautés qui ont été apportées, ça se voit dès le début du jeu. Le niveau du scénario, c'est juste incroyable, ils mènent tout beaucoup mieux, tout est bien amené, tout est mieux réalisé. On a l'apparition de Quick Time Event pendant certains combats.
Aïe.
Et honnêtement, je pensais que ça serait pas une bonne idée jusqu'à ce qu'ils viennent. Parce qu'en fait, c'est dans les combats contre des animaux sauvages. Donc là, ça devient un peu intéressant parce qu'on s'y attend pas forcément de se faire sauter dessus par un ours. Donc voilà, parce qu'il y a une...
Ça arrive souvent, pourtant, non ?
Il y a une nouvelle zone, en fait.
On connaît pas ta vie privée, Randall.
Je crois qu'on veut pas la connaître. Parce qu'en fait, dans Assassin's Creed, ça a souvent été axé sur les villes, les grandes villes. Donc, on a eu Rome, on a eu Constantinople, tout cela. Et là, en fait, on a ce qu'on appelle la frontière. Donc, c'est tout ce qui est forêt. Donc, c'est tout ce qui est lié aux Indiens et tout ça. Notre arme principale, c'est le Tomahawk et tout ça. Donc, forcément, il fallait qu'il y ait des animaux sauvages. Donc, je pense que c'est là où est venue l'idée des Quick Time Events. Au niveau des combats, ils ont amélioré dans le sens que c'est un peu plus simple. Mais c'est aussi bien mieux fait. Au niveau des combos et tout ça, je trouvais ça super bien fait. Ils ont ajouté la masse de détails. Genre, la dernière fois, je me baladais, parce que je m'ennuyais un peu chez moi, et je vois qu'en fait, pour l'herbe, au lieu d'avoir un chargement par pixel, comme dans beaucoup de jeux, où au fur et à mesure qu'on approche, ça se charge, en fait, l'herbe pousse.
Ouais,
l'herbe pousse, en fait, devant nous. C'est-à-dire que quand on avance, les brins d'herbe poussent. Et ça donne un côté immersif qui est vraiment incroyable. Bon, après, il y a des petits trucs, ça sert peut-être pas à grand chose, c'est les objectifs annexes qui sont plus visibles, ce que j'avais noté. Parce qu'en fait, avant, dans Revelation, ils ont introduit la synchronisation 100%. C'était foireux, honnêtement. Je pense que c'était vraiment foireux dans le sens qu'on le voyait jamais ce qu'il fallait faire. Donc,
ouais, ça c'est vrai.
Oui, il fallait terminer une mission, mais avec des objectifs bien particuliers. Donc, soit tuer personne, soit tuer ta cible avec seulement un couteau de lancer. C'était vraiment
voilà,
spécial.
Et on les voyait pas.
Bah, l'idée était bonne, mais on les voyait
voilà,
pas.
Et donc là, on les voit assez régulièrement, donc ça, c'est super. Et ça permet vraiment de rentrer dedans. C'est beaucoup plus fluide. Ils ont ajouté de la neige. Donc ça, c'est juste incroyable. On peut marcher dans la neige et on a du mal à marcher. On rampe à moitié dans la neige. Et ça, c'est vrai que c'est un des plus de la série. C'est vraiment le côté immersif qu'ils ont rajouté.
Est-ce qu'il y a de la buée qui sort de la bouche du personnage quand il a froid ?
J'ai pas fait attention, mais j'irai regarder.
Parce que si ça c'est immersif.
J'irai regarder.
Mais voilà. S'il en a pas, c'est que c'est The Thing.
Donc voilà. Voilà. Oui, dans exactement. Les premiers, on pouvait pas nager, après on a pu nager. Maintenant, on peut monter aux arbres. Attention. Donc, au début, on se dit que c'est génial. Et en fait, moi, personnellement, au fur et à mesure, j'ai remarqué quelque chose, c'est qu'il y a des chemins prédéfinis, en fait, entre les arbres. Parfois, il y a une branche qu'on est sûr qu'on pourra atteindre, mais que bizarrement, on peut pas l'atteindre. Donc,
c'est comme dans Naruto.
Ça a toujours été le problème, un peu. Il y a toujours des endroits où on peut atteindre, mais on les atteint pas. Pareil, le cheval,
ils
n'ont pas réglé le problème du cheval. Hein. C'est toujours pourri.
Parce que honnêtement,
sauter avec le cheval quand il y a une barrière, ça devient un enfer.
Est-ce que tu peux strapper avec le cheval ?
Oula, je sais même plus.
Tiens, d'ailleurs, une petite question. Est-ce que tu crois qu'il y a eu une grosse influence de Red Dead Redemption
dans
tout ça ?
Ouais, quand même. J'ai très peu joué, mais je pense au niveau de ce qu'ils appellent la frontière avec la forêt et tout ça, les grands espaces où on peut se balader. Je pense que ça a un peu été inspiré. C'est beaucoup plus monde ouvert.
Red Dead Redemption, qui est, juste pour préciser, c'est une sorte de GTA au Far West, quoi. On pourrait dire ça comme ça.
C'est un GTA.
Beaucoup mieux, mais ambiance Far West, mais beaucoup plus ouvert. C'est juste une tuerie. Mais
j'ai trouvé un peu plus scénarisé aussi que GTA. On a plus besoin de savoir comment ça se passe au scénario, parce que dans GTA, on pourrait y jouer des heures sans vraiment faire les missions. Enfin, moi, c'est mon avis. Et c'est vrai que sur Red Dead, on a envie quand même de découvrir un peu ce qui se passe. C'est ça qui est intéressant. Et donc, pour finir, le plus drôle, donc, c'est les bugs. Donc, avant, on avait des bugs. Maintenant, on a beaucoup de bugs. Mais vraiment, c'est juste incroyable.
Bah, c'est le défaut des mondes ouverts aussi.
Ouais, bon. Mais parfois, il n'arrive pas à monter une marche quand même. Une simple petite marche.
Bah, ouais, mais lui, il est jeune. Mais...
donc, j'ai mis un lien là sur la chatroom. C'est Gameblog qui a fait un top 20 des bugs. Donc ça va des personnages qui parlent sans ouvrir la bouche, aux vêtements qui rentrent un peu tout et n'importe comment partout, qui se plient.
Je crois que c'était dans le numéro 2, Ezio au départ, il était quand même, il avait un gros
ouais,
strabisme. Hein,
il arrivait pas à regarder en face. Moi je pensais le bug numéro 1 du top 20, il est assez énorme.
Ouais, on va laisser les gens aller voir. Non mais voilà, sinon vraiment pour résumer l'épisode, enfin cet épisode je pense qu'il est vraiment incroyable. Niveau durée de vie, ça a l'air beaucoup mieux, enfin encore mieux que les autres. Que j'ai dû, je crois que je suis à 20%, j'ai joué 5h30 réellement, 6h en glandant un petit peu. J'avoue. Non voilà, c'est vrai que je pense que c'est vraiment l'épisode le plus abouti de la série. Sur tellement de points, quand on joue, on est vraiment scotché. Il y a des épisodes de bataille navale, c'est juste mais un truc de fou furieux. On dirige vraiment le bateau. Il y a une impression de tenir le bateau alors qu'on a juste une manette dans les mains. Donc après, bon, niveau prix, c'est 70€, hein, comme d'hab. Hein. Il va sortir sur PC en retard, comme d'hab.
Et moins cher.
Et moins cher aussi. Je crois qu'il a 20€ moins cher, comme d'hab. Non, mais c'est vraiment...
Je viens de voir le bug numéro 1. C'est vrai qu'il est énorme. Oui, il est énorme.
Spoilez pas, je veux voir. Ah oui, d'accord, je vois. Ok, c'est bon.
Voilà, c'est vraiment, je pense, le jeu de la fin d'année. Enfin, personnellement, c'est vraiment ça que j'attendais depuis des années. Donc voilà.
Enfin, le truc marrant avec Assassin's Creed, c'est que mine de rien, pendant qu'ils avaient une équipe qui créait la suite d'Assassin's Creed 2, donc Brotherhood et Révélation, ils avaient déjà une autre équipe en train de travailler sur Assassin's
oui,
Creed
3.
Oui,
bah j'ai...
Et j'ai,
j'ai pas
mon jeu
vidéo magazine sur moi, mais ils en parlent au début, je crois que c'était 300 ou 400, 300 personnes pendant 3 ans qu'on travaillait dessus. C'est juste, c'est monstrueux. Ouais. Enfin, moi je trouve ça monstrueux.
Pour refaire le moteur du jeu, refaire le monde ouvert, un peu tout reprendre à zéro et tout refaire en mieux, d'après ce qu'ils avaient appris du 2.
Moi j'attends vraiment le.
Apparemment, c'est vraiment.
J'attends vraiment le prochain qui sera sur la nouvelle génération de consoles, et donc sur PC ça va en bénéficier aussi. Parce que là, le moteur, on commence à en avoir fait un peu le tour. Je pense que ça va donner un truc de fou. Quoi.
Bah, si on veut parler de Ubi, on peut parler de Watch Dogs.
Par exemple.
Une grosse annonce.
On verra bien.
Watch Dogs, hein, on verra.
Ah oui.
Ouais, je crois que j'ai tout dit. Vous avez d'autres questions ? Non ?
J'attends d'y jouer.
J'ai quelque chose à rajouter parce que j'ai trouvé ça sur Wikipédia en traînant entre deux cours. C'est qu'en fait, la série Assassin's Creed, donc je cite, les prémices de la série Assassin's Creed se trouvent dans le roman Alamut de Vladimir Bartol. Ouais. Je ne savais pas du tout en fait que ça venait d'un roman.
Enfin, l'idée de base.
Voilà, l'idée secte des assassins en fait, versus l'ordre du temple. Mais je trouve ça, c'est vachement bien en tout cas.
Et ce qui est marrant, c'est qu'au début, le premier Assassin's Creed, il a été développé comme étant un nouveau Prince of Persia en fait.
Et à la base, c'était sur PS2 en plus.
Ouais,
il voulait faire sur PS2.
Il voulait faire un nouveau Prince of Persia, puis il s'est aperçu que le personnage avait zéro profondeur.
Ça marchait pas du tout, le prince marchait pas du tout. Avec ce
au début, c'était une espèce d'histoire de quelqu'un qui devait escorter le prince et on devait jouer l'escorteur, et puis ça marchait pas. Il a complètement changé en lisant ce fameux bouquin dont tu me parlais. Ouais.
Mais je crois qu'il y a eu une, il y a eu la saga Assassin's Creed qui est sortie aux éditions Pix & Love, justement, il retrace un petit peu
oui,
tout.
Oui, il y a une encyclopédie aussi qui est sortie, j'ai vu. Bah, le Wikipédia est pas mal complet là-dessus, ça va. Ça m'a bien aidé pour faire mes notes, parce que j'ai deux
oui,
pages de
pas,
notes. Hein,
c'est pas
quand même.
Bertrand Amard qui a édité ça, qui a fait ça, non? Un truc comme ça?
Oh, je sais plus. Donc voilà.
Je ne sais pas. Non, je ne sais pas.
Voilà, Assassin's Creed, saga des jeux vidéo aux éditions Pixel Love, ouais.
Bah moi je. Ouais. Je l'ai, j'ai le 1 sur Steam, mais j'ai
le
pas
1 est
encore
vraiment
lancé,
chiant,
mais je pense.
Honnêtement.
Ouais, il est chiant.
Ouais.
Ah bah merde.
Faut le prendre différemment, faut le prendre différemment. Moi je l'ai joué, tu fais une ville au complet, t'attends un petit peu,
ouais, parce
tu
que
joues
tu
pas pendant
fais
une
20
semaine,
fois la
tu
même
refais
chose.
une ville, sinon tu vas faire 20,
Ouais.
20 fois la même chose,
C'était
ça va
le
être
jeu quoi, il y
pénible.
avait 4 missions. Il devait y avoir 4 ou
Plus gros
5 missions, pas
défaut.
plus.
Enquête mission, du vol, de l'extorication d'informations,
Des
machin et
courses, je sais
tout,
plus,
pour
voilà.
aller jusqu'à ta cible et terminer la ville.
Ouais.
Mais si tu fais ville par ville tranquillement, ça passe très très bien.
Voilà.
D'accord. Bon bah. D'accord, bah merci, hein. Et donc on va passer à la suite. On va passer avec toi, Randall, pardon.
S'il vous
Randall
plaît.
Flag.
Oui,
Avec The Walking Dead, tu vas nous parler de The Walking Dead.
j'aimerais vous parler de Walking Dead. Brains. Mais pas vraiment du comics, qui est par ailleurs très très bien. Mais surtout de la série télé qui est tellement mal partie au départ que beaucoup de monde
Ouais.
a abandonné.
Démarrage en trombe, mais après ça c'est
Ouais,
la
en
fin.
fait au départ on en a la saison 3. Sur la saison 1, le début partait très très bien où on avait pratiquement la BD case par case pour le premier épisode, on va dire. Et surtout l'ambiance était très bien faite, on voyait qu'il y avait des moyens, les acteurs étaient plutôt bons et donc ça partait bien. Puis petit à petit au cours de la saison 1, ça a dévié. Jusqu'à un
Oh
moment
oui.
où ils ont commencé, déjà, ils avaient mis beaucoup plus de sous dans le pilote que dans le reste, ça se voyait un petit peu. Donc moins de scènes,
Moins de décors, surtout à
moins
la
de
fin.
décors, moins de grandes scènes. Et au bout d'un moment, il se passe un truc qui ne se passe pas du tout dans la BD, je vais essayer de pas spoiler, mais ils partent sur un arc narratif complètement différent, en essayant d'expliquer pourquoi il y a une invasion zombie, plus ou moins, enfin, surtout ce qui se passe au-dehors de l'invasion zombie, alors que ce n'est pas du tout le propos du comics, qui est plutôt l'idée de dire quand on doit survivre contre une horde de zombies, c'est pas forcément les méchants les plus visibles qui le sont vraiment. C'est-à-dire que l'ennemi vient souvent de l'intérieur, il y a un peu de ça quand même dans l'histoire de la BD. Et donc beaucoup de monde a abandonné la fin de cette saison, qui finit très très mal point de vue scénaristique, c'est n'importe quoi. Et il restait quand même quelques petites chances que ça reparte. Donc j'ai quand même continué. Je dois être un des rares.
Je vais pas continuer, moi,
Ouais,
personnellement.
voilà. La saison 2 était un peu mieux. C'est-à-dire le rythme n'était pas encore bon, mais on recollait sur des scénarios proches de la BD. C'est pas exactement les scénarios de la BD, et je dirais c'est plutôt une bonne nouvelle, parce que la BD, je l'ai déjà lue, hein. Mais c'est sur la même ambiance, la même idée, les mêmes, on va dire, grands arcs scénaristiques, même si tout le reste est un peu différent. Et petit à petit, la saison 2 essaye de reco on dirait qu'ils essayent de patcher la saison 1, quelque part. C'est-à-dire petit à petit, la série s'améliore, les moyens reviennent, parce que c'est quand même un tel succès aux États-Unis ce comics que y a moyen de faire de l'argent avec une série télé comme ça
Ah
quoi, en
oui,
fait.
c'est une
Voilà.
manne à pognon, je pense.
Mais je crois que l'auteur du comics participe à la série,
Ben,
non?
je crois qu'il est revenu en fin de saison 2, peut-être même dans la saison 3, je sais plus. En tout cas, à un moment donné, il n'y était plus. Faudrait que je vérifie ça. Et en tout cas, là, j'ai continué. La fin de la saison 2 était assez très très bonne. Ça passe à un moment, je me rappelle plus, mais environ dans le troisième, quatrième tome de la BD, peut-être, je me rappelle plus. Et donc là, la saison 3, qui est repartie depuis quelques numéros, doit être au 7 ou 8, 6 ou 7, je ne sais même plus. Là, c'est de mieux en mieux. C'est-à-dire que le début de la saison, on retrouve un truc qui était propre à cette BD, c'est-à-dire, et qui est normalement très facile à refaire en série. C'est que tu tournes une page et tu fais waouh! Parce qu'il arrive un truc de fou. Qui ressemble un peu à un cliffhanger de série, si tu veux.
Comme la fin de la saison 3 de Lost, quoi.
Voilà, c'est ça. Dans le genre, là, voilà.
Je sais pas.
T'es pas allé jusque-là?
J'ai vomi avant.
Mais ah, comment tu peux dire ça? Là, c'est trop bien, tout ça. On va pas partir en
On
débat,
débute.
mais voilà. Continue, Randall.
Et donc en fait voilà, il se passe des événements fondateurs de la série qui normalement dans la BD se passent beaucoup plus tôt, mais qui finissent par se passer dans la série plus tard. Mais C'est ça, on rattrape un peu l'esprit de la BD, c'est-à-dire l'idée que les personnages, vu ce qui leur arrive, finissent par changer de caractère, de manière de voir les choses, que l'ennemi est souvent juste à côté de toi, et c'est pas forcément les millions de zombies qui t'entourent qui te veulent le plus de mal. Et voilà, donc ça, je vous le conseille vraiment, si vous pouvez retrouver cette série et recoller les morceaux, c'est le moment ou jamais.
Il faudrait que je m'y remette à la série. Parce que
Recoller
c'était
des
un petit
morceaux de
peu
zombies.
laborieux, quoi. Voilà, oui, en effet, il faut vraiment se taper des morceaux de... Mais c'est un peu comme Lost quand on y pense. Ah, Lost. Ah, c'est mon grand
C'est-à-dire que
amour,
Lost,
Lost.
c'est une très bonne série, mais il y a des trucs qu'il faut
Ah, il
vraiment
y a des
se
trucs,
taper,
oui.
comme des saisons pourries et tout ça.
Oh, la saison 2, par exemple.
La saison 2 est pas terrible. Il y a des moments où il y a de l'honneur dans la série de Lost. Et ben, c'est un peu pareil, là.
Oh, c'est un petit peu fort, je vais baisser.
Oh, lâche.
Mais Lost, ouais. On va pas parler de Lost, mais... Le mieux dans Lost, c'est rétrospectivement quand tu re-regardes la série et que tu as des théories comment dire, d'auditeurs, de spectateurs à côté, et t'as
Ouais,
tout qui se remet en marche, et là tu dis, ah ouais,
c'était un
c'est
bonheur,
ça, c'est
ça.
ça. Ça, c'est un bonheur. Voilà, c'est tout.
Ah non, le vrai truc sympa dans Lost, c'est quand tu arrêtes et que tu te rends compte que les scénaristes sont en train de l'écrire en même temps que que tout le monde imagine la suite, et ça, c'est vraiment
ouais,
très
apparemment
rigolo.
c'était faux. Enfin bref, on parlera de Lost une autre fois, mais je dois
Ouais.
rester discuter des airs. Mais on va passer à la suite avec l'anthologie du franc-poney avec
Moi, j'avais juste un truc
Barbelos.
à dire avant, quand même.
Oui, vas-y.
C'est que sur Walking Dead, que je n'ai pas vu mais que j'ai envie de voir, il y avait le guitariste d'un groupe américain qui avait participé en tant que zombie, et ça m'a fait vraiment rire. Donc c'était
Oui.
en guitariste d'Anthrax, donc j'ai mis un lien dans le chatroom, mais c'est vrai que c'est assez marrant de voir des têtes connues comme ça transformées en zombies. C'est que
Ah,
ça a quand même
je
pas
savais
mal
pas.
marché, je pense, si des personnes s'y sont intéressées comme ça. Donc voilà, c'est
Ouais,
petit aparté.
et puis en parlant des zombies, il faut reconnaître que l'équipe qui fait les FX et les maquillages, c'est
Bah là, sur
vraiment
le
du
lien
beau
que j'ai
boulot.
mis, y a des photos de près, c'est assez incroyable, hein, les trous dans la tête.
Ouais, et je vous conseille aussi la web série, parce que pour chaque fêté, la saison 2, la saison 3, ils ont sorti une web série de 5-6 épisodes de quelques minutes. Et qui vaut vraiment le coup, surtout les webisodes de la saison 2, dont je vous raconte pas le pitch, mais parce que la fin, est, si vous ne le savez pas, ça frappe. Et c'est vraiment très très bien fait, très sympa, surtout la première web-série.
D'accord. Bon, on va avancer, parce que
Oui,
le temps tourne, hein, les amis.
mine de
Hein.
rien.
On pourrait rester parler des heures de ça, mais faut quand même avancer.
Oui, si on parlait de Lost.
Ah, non, mais on... Lost, je pourrais en faire un podcast à part, c'est tellement magique. Enfin bref, on va parler de l'anthologie du franc-poney, Barberousse.
Alors, c'est un petit livre de Florent Gorge qui sort dans sa maison d'édition
Okami.
Omake Books.
Florent Gorge, c'est celui qu'on a entendu par exemple dans Gamerside. Il était pas passé dans Gamerside il y a pas
Il est passé
longtemps?
dans le
Si,
dernier
si, il est passé
Gamerside.
dans Gamerside dans le dernier pour parler de la saga No Life, je crois. Non,
Exactement.
ils l'ont invité
Enfin, ils
juste
l'ont
comme
invité comme
ça.
ça, mais il a parlé de No Life entre autres. Il a
Apparemment,
aussi.
entre la saga No Life qu'il avait faite, il a fait aussi l'histoire de Nintendo, qui est juste un bouquin, dans une série de bouquins absolument énorme sur l'histoire de Nintendo des origines, c'est en 1876, je crois, ou quelque chose comme ça, jusqu'à nos jours, et il en est au volume 3, je crois. Et c'est absolument monstrueux, des années de recherche pour retrouver l'histoire de la boîte. Et en fait, ce Florent Gorge est entre autres traducteur franco-japonais, il parle très très bien le japonais, et il connaît pas mal le monde là-bas. Et il s'est rendu compte que au Japon, le français a vraiment la cote. Donc les textes français marchent très très bien, ils ont une image très très idéalisée de la France. Et ils utilisent assez mal le français dans leur publicité, on va dire. Que nous, en Europe, on peut mal utiliser des caractères japonais parce qu'ils font juste joli,
Et qu'en fait, ça veut
et ils
dire merde
racontent
à ceux qui le lisent.
ça veut dire absolument horrible. Et en fait, pas mal de monde ont des canapés avec écrit sur les coussins hémorroïdes, par exemple. C'est un peu une catastrophe. Et bah, dans le même style, il a sorti deux petits bouquins qui s'appellent L'anthologie du franc-poney, quand les Japonais parlent français comme des vaches espagnoles. Et c'est des petites photos qui résument en gros les fausses bonnes idées, les approximations et les petits trucs un peu moins chanceux que les Japonais utilisent et qui font français sur place et qui ne comprennent pas. Typiquement, il y a un café qui s'appelle le Maximum Zizi.
Oui, il y avait aussi la boulangerie qui s'appelle Petite Bite, je crois, parce que
Non,
ils
non,
ont...
c'est une barre chocolatée qui s'appelle
Voilà.
Petite Bite. Et un truc qui s'appelle le camemboule. Un
Joli.
camembert en boule.
D'accord. Oh
Quel
mon Dieu, c'est génial.
humour!
Une fausse bouquin.
Enfouir lunch, c'est magnifique.
Enfouir.
Couturier chanson sur rendez-vous. Des crêpes de cocorico. frivole et cocu.
Oh, c'est mignon.
Il a une enseigne de robe de mariage qui s'appelle.
On va attirer Quaco, c'est avec un
coup. Oui, c'est ça.
Bistrot de bave. La résidence Belpine.
Moi, ce que ça m'inspire, c'est quand même.
Voilà, merci.
Désolé.
Donc là, il en est au deuxième volume, en fait, le Antigie des Francs-Pognes numéro 2. Si vous allez carrément sur son site qui doit être Omake Books, vous pourrez carrément commander les deux.
Et ça coûte combien si t'as le...
Eh ben, comme c'est un truc un peu à l'arrache, j'ai pas encore tout de suite regardé, mais je vais regarder tout de suite. Alors le site, c'est Omake Books, omakebooks.com. C'est en train de se charger, merci Free. Voilà, l'Antigie des Francs-Pognes volume 2. Disponible et vous pourrez retrouver tous les bouquins qu'il a fait entre autres.
Dans le Life Story. 8,50€ le volume et les deux 17€.
Et les deux 17€, frais de port compris. Donc les deux petits volumes, c'est très rigolo, c'est le format, on va dire, un quart de page.
C'est le genre de truc à lire aux toilettes quand t'as un petit moment. Quoi.
C'est un petit machin que tu peux laisser aux toilettes, c'est rigolo. Ça...
136 pages.
Un bistrot qui s'appelle Viande.
Alors on nous demande, enfin Armos demande sur le chat s'il y a des images ou c'est que du texte. Bah, je pense qu'il y a des images. Hein.
C'est que des images.
Ouais, voilà.
Tout n'est que des images. Et tiens, par exemple, il y a un village étape qui s'appelle Vatan. Ou une commune qui s'appelle Le Fion.
Oh, ouais.
Moi j'aime beaucoup.
Ah,
moi,
quoi, c'est un nom de Premier ministre.
Pas de politique, tout ça.
Pardon,
c'est que des photos, soit des Français expatriés au Japon, soit de lui qu'il a pu trouver sur place. Il a tout regroupé ça dans un petit bouquin. C'est vraiment très simple.
J'avais pu le feuilleter, c'était très, très marrant. Voilà, c'était un petit coup de cœur. T'as un petit truc à rajouter là-dessus ?
Oui, il y a une marque de slip qui s'appelle Sodo à 250 yens, c'est pas mal.
D'accord,
c'est pas cher.
D'accord, on va passer à la
chaîne. C'est pas cher, le Sodo.
Ouais. On va passer à la suite. Je vais vous parler. Alors, ça va peut-être vous étonner, mais je vais vous parler de The Truman Show. Pourquoi je vais vous parler de The Truman Show ? Parce que c'est un vieux film quand même. Donc,
ah oui.
Un
très très bon film. Je vais pas trop m'arrêter sur le film en lui-même, mais surtout à quelque chose qui dérive du film. Donc, je sors un petit peu d'un éclairage pas habituel, mais je sors un petit peu du film et pour vous en parler d'un truc assez bizarre.
Pitch un peu le film peut-être.
Ouais, j'ai d'abord pitché le film. Donc tout d'abord, Truman Show, c'est un film sorti en 98, donc déjà 14 ans, presque 15, et donc de Peter Weir. Et donc le pitch du film, c'est l'histoire de Truman Burbank, donc qui est superbement bien joué par Jim Carrey,
ouais.
Et qui est une star de télé-réalité, mais sans le savoir. Donc il faut savoir que depuis sa naissance, tout le monde qu'il connaît et le monde dans lequel il vit, c'est qu'une vaste fumisterie. Et donc on se rend compte que le monde dans lequel il vit, c'est un immense plateau de tournage et tous les gens autour de lui, en fait, ce sont des acteurs. Voilà. Et
peut-être remettre le film dans l'époque, vu que 97-98, c'était l'arrivée de Big Brother et de tous les la Real TV qui est arrivée
aux États-Unis,
en Europe, et ça donnait un bel écho à tout ça.
Et pour continuer, donc dans le film. Donc on suit sa vie, enfin on voit les gens suivre sa vie dans le film. Donc c'est une émission de télé en gros qui fait des millions d'audience. Et petit à petit il commence à avoir des doutes sur le monde qui l'entoure et il va décider de connaître vraiment ce qui se passe au bout du compte. Donc le film, ça me fait penser un petit peu à 1984, je sais pas ce que vous en dites, mais il y a quelqu'un qui chapeaute le tout, donc c'est Christophe, je crois qu'il s'appelle, c'est le réalisateur de l'émission, qui le surveille à travers les écrans, il est tout le temps surveillé, donc ça m'a fait penser à ça.
C'est la même idée générale, de toute façon. C'est le fait d'avoir une grosse entité qui dirige
tout. Exactement. Ouais.
Enfin, qui dirige
Big Brother
la personne.
Is watching you.
Exactement.
Alors, on trouve aussi pas mal de publicité, parce que souvent dans le film, on voit les gens, les proches de Truman citer des marques, parce que bon, bah, comme c'est un show télévisé, ça fait de la pub, quoi. Donc là, on est vraiment dans la parodie de la télé-réalité. Je ferai peut-être un dossier sur la télé-réalité, parce qu'il y a vraiment des bonnes choses à dire, en tout cas. Et il y a un truc qui m'a vraiment épaté, parce que j'ai lu quelques articles à côté, et ça s'appelle le syndrome de Truman Show. Est-ce que vous pouvez deviner ce que c'est ?
Quelqu'un qui croit être toujours observé ?
Exactement, en fait, c'est... Je vous parle de ça parce que c'est un truc qu'on a pas mal entendu parler il y a 3-4 ans, curieusement, alors que le film date de quand même il y a 15 ans. Mais par exemple, il y avait un patient qui s'était rendu à New York pour demander protection à un bâtiment gouvernemental parce qu'il croyait être prisonnier de la télé-réalité suite à avoir vu The Truman Show. Donc il croyait qu'il était dans une émission de télé-réalité et que tout le monde l'observait. Donc il y a des chercheurs londoniens aussi qui ont décrit un patient atteint du syndrome de Truman Show. Et le patient, donc c'était un postier de 26 ans qui pensait que tout le monde était légèrement, je cite, le monde est légèrement irréel, comme si j'étais le héros d'un film. Donc il pense qu'il était le héros d'un film. Il y en a certains qui tirent qui sont fiers de, ils pensent qu'ils sont célèbres, donc ils en sont fiers, quoi. C'est assez bizarre. Et il y a la plupart qui sont complètement troublés parce qu'ils arrivent, parce qu'ils sentent comme si c'était une intrusion dans la vie privée. Et donc on a recensé une cinquantaine de cas quand même, peut-être plus parce que ça date maintenant. Il y en a pas mal qui faisaient des allusions au héros, par exemple, de 1984. Donc, comment il s'appelle ? Le héros de 1984, Winston Smith. Aussi, il parlait de Neo de Matrix, le fait d'être dans un monde un petit peu virtuel. Voilà.
Il savait se faire du kung-fu, quoi.
Je sais pas. Peut-être. Et certains délires, ça va loin, parce que il y a une Autrichienne. Après avoir vu le film, je pense, enfin, c'était pas marqué, mais c'était dans l'article, elle pensait qu'elle était devenue une webcam vivante et que tout Internet pouvait voir à travers ses yeux.
Ah, bien sûr.
C'est.
Il y a vraiment des gens qui sont très loin quand même. Hein.
Elle a changé son nom en Logitech.
J'imagine. Ouais.
Elle avait des actions.
Et en Madame fait, Gaupon. Le gros souci, c'est que ça a relancé le débat sur l'influence néfaste de la télévision, les dangers du cinéma. En gros, n'allez pas voir des films, ça va vous faire devenir fou, quoi. Il y a beaucoup de gens qui ont sauté sur l'occasion pour critiquer ça. Et c'est un petit peu ce qu'on a pu retrouver avec des vidéos.
Oui, il y a toujours quelque chose à brûler, de toute façon. Il paraît que même à l'invention des livres, il y avait déjà ce genre de discours.
ouais. Il y a aussi ça pour les jeux de rôle, par exemple.
Mais honnêtement, la première fois que vous avez vu le film, vous étiez perturbé quand même.
Je défie quiconque de ne pas avoir pensé, suite à avoir vu le film, est-ce que je suis observé par une caméra ?
D'accord, ça me rassure.
Ah, je
parce que moi, j'ai eu très peur.
Non.
Ah, mon père était très inquiet pour moi.
Ah ouais ?
Mon père était très inquiet pendant une semaine. Oh, ça change pas d'habitude.
Sur le chat, Titours dit qu'il n'a jamais eu cette impression. Mais je pense qu'il ment.
Bah, mon nom, mais bon.
Il ment honteusement.
Moi j'étais jeune aussi, je devais avoir 11 ans.
Bah il y a 15 ans, moi.
C'est peut-être, ça a peut-être, ouais, peut-être joué.
J'ai peut-être vu le film il y a 10
moi,
ans.
Moi j'étais déjà vieux, c'était pour ça.
Ah, nous on était déjà adultes avec Randall. Donc,
on était déjà presque à la retraite.
On avait du recul.
Titours, il était comme ça avant le film. Donc,
oui, c'est ça.
Il pose des questions sur lui.
C'est lui qui a écrit le scénario, je pense.
Oui.
C'est sa vie en fait.
Voilà, moi je trouvais ça
étonnant.
Assez étonnant, quoi. Et comme j'ai vu le film il y a quelques mois maintenant, ça m'a rappelé ça. Et
bah, si tu veux un film encore plus perturbant avec Jim Carrey, tu regardes Eternal Sunshine of the Spotless Mind.
Sunshine.
Ah non, tu peux essayer de choper, c'est Man on the Moon.
Oui, aussi. Ouais.
C'est le film qui m'a complètement réconcilié avec Jim Carrey.
C'est un excellent acteur, Jim Carrey.
On dirait pas comme ça, mais très très mal exploité, mais il fait des trucs de malade.
On dirait que c'est un acteur à mimique surtout, mais en fait, il est très bon quand il est dans le registre dramatique. Voilà, on va passer à la suite, encore. Et avant-dernier sujet, on va parler de jeux vidéo avec Grand Rang. Encore de jeux vidéo.
Oui, encore de jeux vidéo. Alors, moi, ces temps-ci, j'ai essayé et fait pas mal de jeux. Il y en a plusieurs que je vous conseille pas mal, dont un petit qui s'appelle Cinemora, qui est un shoot'em up. Sorti il y a quelques temps sur console et qui vient d'arriver sur PC, youpi. Enfin, et donc en fait c'est un shoot'em up à l'ancienne, c'est-à-dire on n'est pas dans un Danmaku, c'est-à-dire un
manic shooter.
Un shoot monstre.
Comme on avait parlé dans Quitter.
J'ai retenu la leçon, Marmos.
Ouais.
Oui, mais vu le rictus que tu avais fait pendant Quid Novi quand je t'ai parlé du jeu, c'est pas étonnant que.
Ouais, disons que là Cinemora, ça me va mieux parce que c'est beaucoup moins exigeant. En termes d'investissement de temps, parce que c'est plus facile de jouer un jeu comme ça.
C'est un jeu de lopette.
C'est un jeu de lopette, voilà, c'est ça. Et l'avantage, c'est que ce genre de jeu, il faut que ça soit déjà splendide pour, je trouve. Mais là, c'est l'un des plus beaux jeux que j'ai vu. C'est édité par Grasshopper, une boîte, la boîte de
ils
Suda.
Ils ont déjà fait des petits trucs rigolos de Suda 51.
Ouais, c'est Suda Goichi qui a fait cette boîte. C'est qu'on fait Killer7.
Ah, Killer7, oui, excellent.
Lollipop Chainsaw récemment, là. Et No
Oui,
More
un
Heroes aussi.
truc. Voilà, No More Hero, il a aussi fait un autre jeu. Toujours avec des zombies, avec le mec de Silent Hill, et puis
Oui,
encore. Comment ça
Shadow
s'appelle?
of the Damned. C'est ça?
Shadow of the Dam, qui est pas terrible.
Il paraît qu'il faut dire Shadow of the Damned.
Ah, faut le. Damn! C'est classe.
J'avais une interview où il disait qu'il fallait le dire comme ça. Oui, en fait, ce qui est marrant, c'est que c'est pas tout à fait dans son. Enfin, on voit que c'était pas développé par lui, mais il reste quand même cette idée de truc un peu original. En effet, il y a un vrai scénario, ce qui est assez étonnant pour ce genre de jeu. Et une espèce d'ambiance moitié steampunk très très sympa.
Et pour une fois, c'est pas des vaisseaux spatiaux, c'est des avions,
C'est des avions,
quasi
ouais, voilà.
hydravions, un petit peu entre guillemets Totoro,
Ah, un petit peu, en
très
plus,
très steampunk.
ouais, en plus steampunk que Totoro, mais un peu dans la même ambiance. Et bon, d'ailleurs, ce qui casse un petit peu le rythme, c'est cette histoire de scénarisation, parce qu'en fait, toutes les 15 vagues d'ennemis, on va dire, il y a un petit bout scénaristique, un petit cutscene avec le moteur du jeu. C'est d'ailleurs très joli, parce qu'on tourne autour du vaisseau.
C'est comme dans Trauma Center, où t'as trois.
Et puis ça cause.
Est-ce que
Et
c'est
puis
comme
ça
dans
cause.
Trauma Center où t'as 3 heures de dialogue, cutscene, et t'as 5 minutes
J'ai pas joué à
d'opération?
Trauma Center.
C'est insupportable.
Mais l'avantage
C'est
là quand même,
chiant.
c'est que d'un coup de gâchette, tu peux accélérer toutes les scènes cinématiques. Donc c'est déjà pas mal. Surtout qu'il y a de la rejouabilité comme dans tout shoot. Parce que je l'ai fini là, mais j'ai commencé à le démarrer en difficile et là j'ai pleuré quelques larmes de sang. Mais
Ah, tu
ça
vois?
reste jouable. Donc c'est je vous le conseille vraiment, ça coûte pas très cher, une douzaine d'euros je crois sur Steam. Et donc disponible aussi sur PS3 je crois, et je suis pas sûr sur Xbox. Oui, sur Xbox aussi. Donc voilà, Cinemora, mangez-en.
Ouais, j'irai voir, ouais, ça m'intéresse.
Ah, attends, j'ai un autre shoot d'installer sur Steam, je te le retrouve dans 2 secondes.
Alors sinon, oui, là, j'ai beaucoup joué à des petits jeux comme ça, parce que c'est pas un jeu indépendant, mais presque. Mais il y a eu Deadlight aussi que je vous conseille récemment, vite fait. C'est un jeu de plateforme de vue de côté, donc avec le
Ah
moteur
ouais.
de Unreal, qui
C'est
est.
Jamestown.
Jamestown, oui.
Qui est vraiment pas mal
Ah
aussi, ouais.
oui, il est un peu moins joli, mais il est pas mal.
C'est un autre style, ouais.
Moi, je vous disais, je vous conseille aussi en ce moment Deadlight, un jeu de plateforme avec des zombies. J'en ai fait un article sur la bidule, si vous voulez aller voir. Bon,
Oh, moi je fais ça
on fera votre
pub.
pub à la fin, vous inquiétez pas.
Non, mais je vous conseille vraiment, c'est un jeu pas très cher, avec un vrai scénario assez sombre, où le but du jeu, c'est plutôt d'éviter les zombies que de les taper. C'est assez bien foutu. Il y a quelques petites énigmes assez simples pour les combattre, c'est de leur faire tomber des trucs sur la tête, actionner des mécanismes. Voilà.
D'accord. C'est deux jeux. T'en as que deux, c'est bon?
Ah, c'était si j'ai le temps, je t'en
Ah
sors un
bah.
autre.
Tu prends, allez, vas-y, un
Oh,
petit
vas-y,
dernier si tu
sors
veux.
ta rubrique Steam complète,
Ouais.
hein. Il est
Non,
parti
il est ma
péremptoire, là.
Steam. Non, je suis pas fan en fait de Steam.
Oh.
Mais j'ai essayé aussi Need for Speed le dernier,
Ah, Need for Speed,
le
je.
Most Wanted.
Bah, paraît qu'il est rigolo.
Eh ben ouais, parce qu'en fait l'avant-dernier Need for Speed The Run, j'y ai pas joué, mais tout le monde m'en a dit que
Ouais,
c'était une
pitoyable.
catastrophe. Celui d'avant, qui était basé sur Hot Pursuit, c'est une espèce de remake de la vieille version de Hot Pursuit,
C'était bien à
était pas.
l'époque.
Ah, il était bien à l'époque.
Le remake était pas trop mal, mais ça valait pas les anciens. Il y avait quand même l'équipe responsable de Burnout dessus, et ça se sentait. C'était quand même, il y avait quand même un peu de renouveau dans cette
Ouais, il
série
y
qui
avait les
s'endormait.
takedowns, il y avait les crashes, il y avait
Voilà,
des choses comme ça.
un peu moins péchu que dans Burnout quand même. Et là, Need for Speed, c'est un peu ça, c'est-à-dire on retrouve un peu l'ambiance de Burnout Paradise, monde ouvert,
Ouais.
des courses qu'on déclenche en allant à certains endroits.
Diabolica.
Digidiabolica.
Sur Crash
Ah
FM.
oui, c'est vrai. Et ouais, donc le Need for Speed Most Wanted, il y a quand même pas mal de défauts. Bah, il y a le côté nombre de courses différentes, c'est-à-dire il y a des courses classique avec plusieurs modes légèrement différents, et il y a un mode où on doit échapper au flic, qui est assez sympa d'ailleurs. Et à part ça, c'est un peu tout, donc c'est un peu dommage parce qu'on aurait pu imaginer des trucs récupérés de Burnout, style des courses de crash où on doit faire des takedowns et compagnie. Mais ça, il n'y a pas. Le free roaming est sympa, mais il n'y a pas énormément de trucs à faire à part défoncer des panneaux en faisant des sauts ou des trucs comme ça. C'est un petit peu juste. Il y en a un peu moins qu'on avait dans Burnout Paradise, qui était déjà, je trouve, assez pauvre sur le free roaming. Le free roaming, c'est le fait de se balader où on veut dans la ville. Voilà. Par contre, il est assez chouette, une bonne sensation de vitesse, une conduite super arcade, moi ça me va bien. C'est pas du tout de la simu, on n'est pas du tout dans un jeu à la, comment s'appelle,
Grand
Gran Turismo
Turismo.
ou Forza, voilà, ça je pensais. Là, c'est vraiment de l'arcade pure.
Ils ont quitté le côté tuning
Ça, par contre, y a pas,
avec des jantes, des néons en dessous.
y a...
Oh, c'était marrant
Oui,
quand
c'est.
même.
Bon.
C'était rigolo, ouais, mais bon.
D'Underground 2, moi je sais quand j'étais petit,
Oui,
j'adorais.
mais.
J'avais mes petits
C'est
néons.
pareil,
Ah,
c'était très marrant à
c'était
l'époque.
le beau gros concours pour faire la bonne grosse bagnole de Kéké,
Voilà,
bien
la bonne
moche.
bagnole de Jackie.
C'était super
Mais.
rigolo. On habitait le 95 quand on avait cette
C'est ça.
voiture.
C'était ça. Là, on peut trouver des. En se baladant en ville, on peut quand même trouver de nouvelles
Ou un
bagnoles, ça c'est
parking de
évident.
mammouth dans le Nord-Pas-de-Calais.
Ouais. Ouais, donc en se baladant en ville, on récolte de nouvelles bagnoles qui sont plus ou moins bien cachées. Et il y a quelques défauts de certaines bagnoles qui sont vraiment lourdingues, surtout au début. Donc ça met un petit peu de temps à démarrer. Une fois qu'on a trouvé des trois voitures sympas, ça devient plus rigolo. Donc voilà, c'est sympa. Mais je retrouve pas quand même le plaisir d'un vieux burn-out sur PS2 qui m'avait bien déchiré. Burnout 3 sur. J'attends qu'il nous fasse un burn-out à l'ancienne sur PC.
Oh oui. On va passer au dernier petit truc, c'est les Golden Blog Awards. C'est ZQSD, t'es allé au Golden Blog Awards hier.
Oui, c'était hier.
Comment ça s'est
Ouais.
et comment ça s'est
Bah,
passé?
j'ai magnifiquement bien squatté parce qu'ils ont donné des invitations. Donc tout le monde me demandait ce que je faisais là. Je disais vaguement que j'étais venu pour le bidule. Sinon,
Oh,
la,
joli.
la. Ah bah quand même, fallait faire la pub. Et donc voilà, la cérémonie, c'était super chiant. Honnêtement, c'était très lent, c'était pas, enfin c'était vraiment pour les personnes qui étaient shortlistées, donc qui étaient, voilà, c'était juste pour eux et ça se voyait. C'était Alex Nassar qui présentait, donc en fait on n'est pas resté bien longtemps. Donc j'ai vite récupéré Van Shive, Laurent Doucet, Yeti et tout ça.
Laurent qui?
VIP.
Voilà, un peu tout le monde.
Ce
Donc
VIP sans foi ni loi.
on se retrouvait à côté du stand de l'ADC, qui enfin du stand de la table de l'ADC. Très belle
Qui était
table.
beaucoup trop loin du buffet, apparemment.
Ouais, mais en fait, ils pensaient de ce que, enfin, j'ai pas mal discuté avec eux après, c'est que ça a mis du temps à commencer le podcast et ils ont
Ah,
eu
c'est vrai que
vachement
c'était
de mal au
assez.
début.
Ouais, ça c'est vrai que c'était assez.
Ah, ils ont
Ah oui, ça se
galéré au
voyait.
début,
C'était
hein,
vraiment la
c'était
galère.
vraiment
Hein.
chaud.
Et le gros défaut des Golden Globe Awards, c'est qu'ils ouvrent pas le buffet avant la fin de la cérémonie, qui était en retard. Donc en fait, on a attendu, et après, il y avait pas grand chose à manger en fait. Beaucoup trop de légumes. C'était triste. Donc j'ai pas
Ah,
beaucoup mangé.
il va pas y avoir des plateaux de Big Mac non plus, hein.
Ah, tu dis ça, mais il y avait un blog de cuisine, playlist musique, j'ai pas tout compris, avec de très belles hôtesses, qui faisaient des dark burgers. C'était des burgers noirs avec du rump steak et du fromage. Et ça, c'était très 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 bien. Et voilà, donc on a plus passé notre temps à être à côté du buffet avec le champagne, la bière et voler des bières à
Ça
Quacos. En résumé,
avait l'air un
c'était ça.
peu
Avec notre.
parisien quand même.
Ouais, voilà.
Ouais, ça.
Bowser en parlera mieux que
Presque
moi.
mondain, j'ai l'impression. Mais il y avait du monde, hein. C'était
Ah,
quoi,
c'est.
2000 personnes, genre?
2000 personnes, ouais.
Et là.
Ah, mais c'était mondain. Il y avait vraiment des gens qui étaient un peu hautains, qui regardaient. Je sais pas, on se sentait pas forcément dans une ambiance blogueur dès qu'on sortait des blogs high-tech et podcasts. En fait, c'était très. Ils se la pètent un peu, en fait. Hein.
D'accord.
C'était vraiment, on est des podcasteurs, on a la mairie. La mairie, c'est magnifique, c'est un super lieu, c'est juste, mais vraiment sublime. Et donc, ils se sentaient plus pissés, comme dirait ma mère. Voilà.
Oh.
Donc, c'était un peu ça. Mais sinon, c'était sympa.
Non, mais on ira aussi pour la cinquième ou sixième édition.
Quatrième,
On ira.
l'année
Ouais,
prochaine.
quand Quid Novi et les éclaireurs seront nominés.
Oh,
Les
ouais.
éclés quoi?
Nominé
Je sais
et
pas.
lauréat.
Ouais.
Ex-aequo premier.
Déjà, faut monter sur Paris, c'est une autre mince affaire. Et donc, voilà, on va passer à la conclusion. Donc,
Enfin.
merci déjà à la chatroom de nous avoir suivis, hein, parce que c'était le premier live, c'était peut-être un petit peu balbutiant, mais passez un très bon moment. Alors, on va remercier aussi les invités d'être venus, bien sûr. Alors, on va faire un petit
Oui.
récapitulatif. Par exemple, Randalflag, on te retrouve où sur les internets?
Et sur les internets multimédia des autoroutes de l'information, vous me
Ouais, exactement.
retrouvez sur Twitter @Randalflag avec un underscore derrière.
Ouais,
À la fin, oui, parce que sinon les papiers
sinon c'est
reviennent.
un non c'est un paraguayen. C'est un
Ah,
paraguayen, je crois.
Paraguay, oui, c'est ça.
Il nous engueule en plus.
En paraguayen. Bon, portugais sans doute, ou espagnol, je ne sais pas. Bref, donc on me retrouve sur Randalflag underscore. On me retrouve aussi sur gribouillon.fr, c'est ma maison, où je fais des petits gribouillages hérétiques. Et vous me retrouvez aussi sur Le Bidule, un petit site où nous faisons avec
Un
plusieurs amis.
excellent blog.
Voilà, un certain ZQSD aussi. On fait quelques articles sur un peu tout et n'importe quoi.
Donc Gribouillon, le bidule,
Gribouillon.fr et le bidule.org.
Et sur tous les bons podcasts
Gribouillon
français.
Pluriel.
Ouais, comme... et toi, ZQSD?
Donc moi, on peut me retrouver sur Twitter. Donc c'est @ZQSD. Donc pour bien faire chier, ça s'écrit ZEDKUESDE. Et sans underscore à la fin.
Le pseudo a couché dehors un peu.
Ouais, mais il fallait.
Vous le retrouvez aussi dans les remerciements de Quid Novi.
Voilà.
Assez souvent.
Si vous savez plus ou vous savez plus mon pseudo, c'est vous écoutez un Quid Novi. Voilà. Et sur le bidule, rédacteur depuis peu avec Randall, Titours et toute la bande.
Les esclaves du bidule.
Non, nous sommes des freelances.
Ils sont gentils, ils sont gentils.
Et Barberousse, je ne te présente plus peut-être. Allez, si, vas-y. Présente-toi. tu es tellement connu maintenant que.
Presque autant que Laurent.
Non, c'est pas moi le plus VIP, hein. Alors moi je suis sur Twitter, @barberousse, sans E à la fin.
Et sans underscore aussi.
Sans underscore.
Parce qu'avec un
plus,
E à la fin, c'est un Yougoslave.
C'est un... Non, avec un E à la fin, c'est un Québécois.
Ils ont piqué tous les bons pseudos en plus.
Bah,
ah non, il y a le mien.
Et donc on te retrouve.
Sinon, bah, tu me retrouves sur, bah, avec toi, bah, généralement.
c'est corporate, c'est
sur
quoi,
hein. Quid
Novi, c'est quoi?
QuidNoviPDC.com, un autre podcast.
Avec un site
où
tout
on
neuf.
Fait un petit... On essaie de faire de la culture avec un site tout neuf. Et l'épisode 9 où il y avait Randall Flack.
Ah, moi j'étais. Oh,
et avec une fille, attention.
Mais oui.
On a deux filles dans l'équipe. On
ouais,
a deux
filles
dans
oui,
l'équipe.
Exact.
Apollinaire DM la maudite. Et on fait des petits dossiers un peu culturels. On fait un petit peu, des mini éclairages en gros. Même si c'est nous qui avons commencé parce qu'il faut pas déconner.
Ah, il faut toujours qu'ils récupèrent tout. Hein.
Faut pas déconner. Comment ils volent tout, là, franchement.
Ouais.
Et des petites news en premier, avec entre autres avec Péremptoire.
Ouais. C'est moi. Et donc moi, donc vous pouvez me retrouver dans Queen Novi, bien sûr. Et donc sur les éclaireurs, donc les éclaireurs @les_éclaireurs avec un S bien sûr. Et donc sur iTunes aussi, parce que maintenant on est sur iTunes, tout ça, et il y a le blog aussi, leséclaireurspodcast.blogspot.fr. Et donc on va se retroucher. Ouais,
on va se retroucher.
Retrouchons-nous, retrouchons-nous.
Est-ce qu'on te retrouve chez les scouts?
On me retrouve chez les scouts, ouais. Donc on va se retrouver le mois prochain pour une émission spéciale fin du monde avec plein d'invités, ça va durer 3 heures, ça va être
le mois
être
prochain,
l'enfer.
Il faut faire ça vite, avant la fin du monde.
Ah oui, non mais ce sera avant le 21.
D'accord.
Bien sûr, même si le 21, c'est... comparé à tout ce qu'il y a comme fin du monde, c'est
d'annuler. Oh, bon, on verra ça dans un mois.
Tu nous expliqueras ça, voilà, ouais. Tu nous expliqueras tout ça.
Oh oui, ça va être une grosse émission. Et donc merci de nous avoir suivis et on se retrouve le mois prochain pour un éclaireur spécial fin du monde. Allez, salut.
Au revoir à tous.
Salut.